sur la première, c'est Vertigo jusqu'à 18h.
Bonjour.
Bonjour.
Motier 2015, c'est plus de 60 artistes, je le disais, qui présentent leurs œuvres le long du parcours, qui démarrent au village et s'enfoncent dans la forêt. Par contre, si on veut voir votre travail, il va falloir un peu creuser.
Pas trop quand même. et faudra savoir le faire parce que personnellement, j'ai pas pu me rendre pour l'installation de l'exposition à Motier même. Et donc, je ne sais absolument pas où se trouvent mes œuvres.
C'est le président, je crois, de Motier Art en plein air, Pierre-André Delachaux, qui les enterrait pour vous, en suivant vos instructions tout de même.
Oui, c'est des instructions qui datent un peu, parce que c'est une pièce de 1967 ou quelque chose comme ça, qui est assez sibylline. Elle dit glass, earth, vert, terre, et on en fait ce qu'on veut. En fait, on l'interprète comme on l'entend. Comme c'est à Motier, je pense que la fée bleue a fait son effet et ils ont choisi des éléments de verre et de métal qui sont reliés à la fabrique, quand on sert l'absinthe en fait.
Que ce soit lui ou que ce soit vous qui enterriez ces objets, ça change strictement rien?
Non, je pense que, enfin, ça change. Pour certains, ça doit changer. Certainement pour Monsieur Delachaux, ça a changé. Mais je pense que le principe de la pièce est conceptuel. C'est une idée qui est donnée et qui est livrée à l'artiste pour qui la réalise de le faire comme il le veut, un peu comme une partition de musique, en fait.
C'est l'idée qui compte, pas sa réalisation.
Non, je pense que ce qui compte vraiment, c'est la personne qui s'y intéresse après coup. Je pense que l'œuvre est toujours faite par le regardeur, même s'il ne voit pas grand-chose en l'occurrence, mais qu'il s'y intéresse. Je pense que l'artiste est un dégât collatéral de l'œuvre. C'est la chose la moins intéressante dans l'art en général. L'œuvre d'elle-même peut avoir de l'intérêt, et ce qui la crée vraiment, c'est celui qui l'utilise.
Qu'est-ce qui est le plus intéressant alors ?
Alors ça, c'est à vous de le dire, parce que vous pouvez aller à Motier et essayer de me faire un rapport de ce que vous avez ressenti.
C'est difficile de ressentir quelque chose qui nous est invisible.
Je pense qu'on n'arrête pas de le faire. Regardez, là, on se voit tout juste à l'intermédiaire d'écran. On est dans une émission de radio où, par excellence, on entend et on ne voit pas.
Vous êtes à Genève, je suis à Lausanne.
Voilà. Et encore, rien ne le prouve. Donc, pour la personne qui écoute, il est en train de se construire son univers en fonction de ce qu'il veut bien, que sa narration interne veut bien construire, en fait.
Donc, c'est la réception qui compte, hein.
Oui, je pense que l'inventeur est celui qui prend en charge en écoutant. Ça a été le cas de toujours, en fait. Et si on parle de l'art, on passe son temps à regarder des objets d'art d'autres époques qu'on n'a pas vécues, dans des contextes qu'on ne connaît pas. On regarde des tableaux qui ont été faits sous les lampes, sous les spots, à une époque où il n'y avait pas d'électricité. Donc on est toujours dans un décalage.
Et du coup, cet art en plein air, comme à Motier, ça vous inspire quoi, John Armleder? L'art accessible, l'art qui respire, qui s'adapte à l'environnement et pas l'inverse?
Je pense que ça s'adapte toujours. De nouveau, je pense que ça s'adapte au regardeur, où le regardeur prend en charge, prend possession de ce qu'il voit. Le fait que ce soit en plein air, je pense que ça ne change pas vraiment grand-chose, à part que ça donne un côté festif, un côté ambulatoire qui est plus prononcé. Et puis, vous imaginez bien, les gens qui vont en Val de Travers, ils font un peu la fête au vernissage de ce genre d'exposition. La fée verte, justement, coule à flot, et tout le monde est très content. En fait.
Je crois que tous les visiteurs de Motier ne passent pas par les fontaines à absinthe.
Enfin,
je le souhaite. Oui, certains, effectivement. À Motier, il faut marcher 3-4 heures, apparemment, pour tout voir. Il y a une implication, du coup, du visiteur. Vous espérez quel type d'implication, de disposition, vous, de ceux qui vont dans les musées, les galeries, les foires, pour voir vos différents travaux?
En fait, je n'espère rien. C'est déjà pas mal de se consacrer à ce que l'on fait sans trop bien savoir pourquoi, et en le faisant, le découvrir lentement. Si on prend le cas de Motier, la première fois que j'avais participé à l'exposition à Motier, c'était une époque où très souvent je faisais des choses qui étaient liées au décorum de Noël, parce que ça m'intéresse dans la mesure où c'est un hybride. Au niveau iconographique, que la plupart des gens qui célèbrent Noël n'ont rien à voir avec la chrétienté. Et comme cette exposition était en été, j'ai proposé qu'on décore un arbre dans la forêt, un sapin, avec les décorations de Noël de la municipalité. Et ils l'ont fait. Je ne l'ai pas vu d'ailleurs, parce que c'était tellement loin que je ne suis jamais arrivé. Et donc, au milieu de la nuit, si on se promenait dans la forêt, tout à coup, il y avait un arbre de Noël en plein été qui était décoré à la façon de Noël. Ce type de déclage, forcément, crée des réactions où, en tout cas, si ce n'est pas de la part des visiteurs, je pense que les animaux en ont profité à fond.
Quand vous dites que vous n'espérez rien, malgré tout, cette réaction, vous l'espérez, l'interaction, l'émotion ?
Écoutez, oui et non. En fait, sans doute un peu, puisque vous m'invitez à venir ici, je dis, j'accepte et je le fais avec plaisir. Donc, je ne dois pas être un total alien de ce monde, bien qu'il y a quelques années, j'ai failli partir dans une autre dimension. Je suis revenu parce que visiblement, on ne m'a pas voulu là où j'allais.
Vous étiez très malade.
J'étais donné pour mort. Et ça a duré très longtemps, c'était un long processus. Mais en revenant, je me suis rendu compte que, dans le fond, quand on meurt une fois, tout change et rien ne change. Et dans le fond, c'est quelque chose qui se répète sans arrêt, chaque minute de notre vie.
Tout change, rien ne change, c'est pareil pour l'art.
C'est pareil pour l'art, certainement, oui.
Chacun est libre de comprendre, de recevoir l'art comme il le souhaite, d'accord, je comprends bien. Mais vous, en tant qu'artiste, vous vous engagez dans votre passion, que ça plaise ou que ça déplaise. Vous en fichez réellement ?
Ça dépend sur quel plan. Je pense que la liberté qu'on a comme artiste est une liberté inouïe qu'on ne retrouve à peu près dans aucune case à société. Même les militaires et les prêtres ont moins de liberté que nous, en quelque sorte, bien qu'ils en ont pas mal. Ça nous donne un certain nombre de responsabilités. Ça nous donne une forme de conscience que peu de gens ont le loisir d'exercer. Et je pense que là, il y a une responsabilité. Maintenant, comment on l'exerce, ça dépend des gens. On peut l'exercer directement, c'est-à-dire que notre œuvre artistique parle de cela, ou bien par rapport à notre manière de vivre, nos engagements politiques ou sociaux.
Quand je vous écoute, John Armleder, je sens que tout ça, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il sent. Il y a un air un peu détaché. Et vous vous dites d'ailleurs, détaché, cette distance-là, elle vous sert en création ?
Probablement. Elle me fait me poser les questions pour elle-même avant l'exécution. Elle les résoudre éventuellement avant l'exécution. Et l'exécution après, c'est-à-dire la production de l'œuvre physique, est détachée de ce genre d'angoisse typique qu'on imagine du créateur qui va retoucher son œuvre, la détruire, la recomposer, se poser plein de questions. Personnellement, ces questions-là, si je me les ai posées, et j'en suis même pas sûr, ça précède la fabrication de l'objet qui lui-même est indépendant. Et j'en suis un spectateur autant émerveillé que les autres.
John Armleder, restez avec nous. On se retrouve après cette chanson du Canadien Marc Bérubé, Les Beaux Corps.
Les beaux corps me donnent à penser. Ils tournent dans ma tête. Tu tournes dans ma tête. Ton beau corps qui me donne envie. Je trace la silhouette de ton physique. J'aimerais te dire ce soir comment on peut se perdre dans le noir, dans le noir. Les beaux corps brise l'espace, recouvre ma confiance d'une carapace, les peaux corps, on est à la chasse, mais j'ai perdu mon fusil, j'aimerais bien qu'on se cache. J'aimerais te dire ce soir, comment on peut se perdre dans le noir. Voilà, voilà ce que j'aimerais te dire ce soir, comment je veux t'aimer dans le noir. T'aimer dans
Marc Béroubet, Les Beaux Corps, vous écoutez la première Vertigo avec vous jusqu'à 18h en compagnie du plasticien genevois John Armleder, qui est l'un des artistes à l'affiche de la 7e édition de Motier Art en plein air. John Armleder, vous avez grandi dans l'hôtel de luxe de votre famille, le légendaire hôtel Richemont à Genève. Vous avez grandi vu sur les Alpes et le jet d'eau. Ça n'a rien d'une enfance ordinaire?
Probablement pas. Enfin, ça dépend ce qu'on en fait. Mais je pense que le fait d'avoir vécu dans un hôtel les 10 premières années de ma vie, c'est un contexte qui est très singulier, surtout qu'à cette époque-là, les hôtels étaient peut-être un peu différents. Les clients revenaient chaque année, les employés restaient toute leur vie pour finir dans cet hôtel. C'était donc ma famille, d'une certaine manière. Et ce qui m'a donné la chance de comprendre que l'environnement humain dans lequel je me trouvais n'était pas stable, n'était pas fixe, elle n'avait pas qu'une culture. Je pense que ça m'a ouvert énormément de l'esprit dans ce sens-là et que c'est un privilège extraordinaire.
Grandir avec plein de gens de passage autour de soi, ça, forcément, ça installe un autre rapport aux autres.
Oui, ça relativise les choses. Même à tel point, par exemple, aussi, que nous habitions dans des chambres qui étaient parfois utilisées par des clients, donc on déménageait régulièrement d'une chambre à l'autre. Donc on n'avait pas un territoire fermé qui nous concernait.
Et vous jouez alors ?
On devait les transporter d'une chambre à l'autre, et donc ils devaient être mobiles. Et je me souviens bien quand mes amis de l'école venaient me voir, ils trouvaient ça extraordinaire, ils trouvaient ça comme c'était ce palace, tout ça, c'était des dimensions qu'ils ne connaissaient pas. Et quand j'allais chez eux, ils me montraient leur chambre où ils gardaient toutes leurs choses pendant toute l'année. Je trouvais ça un luxe extraordinaire.
C'était Walt Disney.
Absolument.
Mais vous ne pouviez pas vraiment jouer dans les couloirs, vous ne pouviez pas crier.
Il fallait faire un peu attention, ouais. Oui. Mais comme pour toutes les choses, s'il y a des interdits, ils sont aussi affichés pour qu'on puisse les franchir. Donc c'était aussi un parcours du combattant dans ce sens-là.
Et vous avez forcément croisé dans cet hôtel des stars hollywoodiennes, des artistes renommés, des écrivains à succès?
Beaucoup, mais au début, j'ai vécu jusqu'à 10 ans là-bas. Donc en fait, quelqu'un, que ce soit Charlie Chaplin, Marilyn Monroe ou je ne sais qui, c'était comme les autres clients. Il n'y avait rien de singulier dans ce sens-là. À part qu'effectivement, à un moment donné, que je me suis rendu compte que quand, par exemple, Michael Jackson était là, il y avait 300 journalistes qui attendaient pour savoir s'il allait sortir ou pas sortir. Et on avait toutes ces anecdotes du genre, il mettait une perruque blanche pour aller faire ses achats dans un grand magasin d'une manière anonyme. Et tout ça, ça nous semblait spécial, mais en quelque sorte, c'était dans un quotidien normal dans notre cas, alors que pour les autres gens, c'était quelque chose d'extraordinaire.
Vous avez croisé Michael Jackson?
Oui. Et beaucoup d'autres gens qu'on j'ai malheureusement pas, parce que c'est peut-être pas la même époque, enfin, ça aurait pu l'être, croisé Kim Novak, qui est l'icône de votre émission, je pense.
Évidemment, évidemment. Votre mère américaine, férue de culture, eh bien, beaucoup vous emmenait dans les musées, et cela depuis très jeune. Elle vous perdait presque tout le temps.
Oui, elle avait aussi ce côté très, très ouvert qui nous amenait voir beaucoup de choses, mais ne nous imposait rien, en quelque sorte. Donc, elle nous laissait... j'ai dit nous parce que j'avais un frère, et elle nous laissait nous perdre dans les musées, dans les églises, etc., mais nous retrouver une fois ou l'autre. Et c'est effectivement, mais c'est sans doute ça qui m'a déclenché cet intérêt pour les arts visuels, en tout cas. Et j'ai toujours, je raconte toujours cette anecdote que quand j'avais 4 ans, à Florence, je regardais un ange ailé de Fra Angelico qui s'est flouté parce que je pleurais. J'avais 4 ans, hein, donc ça m'a beaucoup impressionné. Et quelques années plus tard, la première fois qu'on est allé aux États-Unis, c'était en 1956, la différence entre les États-Unis et l'Europe était vraiment frappante. Elle nous a abandonné, enfin elle m'a laissé me perdre au musée d'art moderne, et elle est revenue vers moi en me disant « Mais pourquoi tu regardes ce tableau ?» Et c'était le carré blanc sur fond blanc de Malevitch, et j'ai dit « Mamé, on parlait anglais, ça c'est de l'art moderne, c'est ce que je veux faire plus tard. » Et il semble bien que...
Qu'est-ce qu'on peut comprendre à 4 ans devant un ange ailé polychrome ou à 8 ans devant un carré blanc sur fond blanc ?
Exactement ce que vous venez de dire. Je pense qu'on comprenait les choses comme elles sont et qu'on n'avait pas besoin de les justifier autrement, ou alors éventuellement on se construisait une narration autour. Sans doute, et ça je ne me l'explique pas, en le voyant à 4 ans, je ne sais pas, mais quand je regardais le Malevitch, c'est certain que je me disais comment est-ce que je pourrais faire pour faire la même chose d'une manière ou d'une autre. Et je pense que ce que l'on oublie beaucoup, c'est qu'avant, quand on apprenait à faire de la peinture, on allait chez un maître et on essayait de faire comme lui, et après, plus tard, on essayait de faire mieux que lui. Et c'est quelque chose qui, évidemment, est complètement sorti de notre esprit, parce qu'on imagine que l'individualisme est une qualité absolue et qu'il faut faire quelque chose que personne d'autre n'a fait auparavant, ce qui est évidemment une illusion complète.
Ces larmes, elles coulent parfois encore face à une œuvre ?
Je ne sais pas si elle, physiquement elle coule, mais il y a beaucoup d'émotions devant une œuvre ou autre chose. Hein, je veux dire, faut quand même relativiser les choses. Je suis un artiste, tout ça me passionne, c'est ma vie, j'ai fait que ça finalement. Mais n'oublions pas, je ne veux pas faire le moraliste, mais que dans le temps de notre émission, je ne sais pas combien d'enfants sont morts parce qu'ils n'ont pas mangé, je ne sais pas combien de gens sont morts parce qu'ils n'ont pas reçu des médicaments, et ces médicaments et cette nourriture est disponible. Il y a encore des gens qui se tapent dessus pour, dans les guerres qui n'ont absolument aucun sens.
Alors quel sens vous donnez face à tout ce que vous venez d'aborder et de dire ? Quel sens vous donnez à votre travail ? Parce que là, pour le coup, vous relativisez tellement que ça paraît tout d'un coup très insignifiant, pardonnez-moi.
Ça l'est d'ailleurs, mais l'insignifiance n'est pas improductive. C'est-à-dire qu'elle relativise, ou en tout cas d'une certaine manière, et elle rappelez-vous quand même que si on fait 2 pas en arrière, on voit ce qu'il y a devant. Si on se met le nez dessus, on ne le voit pas. Donc je pense que un des grands avantages de l'art, c'est d'avoir cette possibilité d'apprécier le monde. Et on peut avoir ou pas un discours critique par rapport à ce monde.
Dans votre jeunesse, une autre rencontre déterminante, John Cage.
Oui, ça c'était pas beaucoup plus tard, j'avais je pense 12-13 ans. Je m'étais tout à coup passionné pour la musique, mais étant extrêmement paresseux, je n'ai pas appris à jouer d'un instrument, même à déchiffrer une partition. Et j'ai voulu aller à des festivals de musique. J'allais ici à Genève régulièrement écouter à des concerts au Victoria Hall ou au Festival de Montreuil. Je dis à mes parents, j'aimerais aller à un festival en Allemagne, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être à cause de mon ascendance allemande du côté de mon père. Et j'avais le choix entre Bayreuth, le festival autour de Wagner, et d'aller à Donaueschingen où il y avait un festival de musique contemporaine. Bayreuth, ça ne m'a pas du tout plu parce qu'il fallait s'inscrire dans une espèce de jeunesse musicale à tendance, enfin je passerai là-dessus, mais ce n'était pas mon truc. Donc je suis allé effectivement à Donaueschingen où il y avait Kagel, Schockhausen et plein de gens comme ça, et John Cage qui a donné un concert et après une conférence. Et peut-être parce qu'on était en Allemagne, il a pensé que c'était naturel de parler sérieusement de la musique. Et après, elle a demandé si on avait des questions. J'ai levé ma main, ce que je regrettais, parce que c'était comme à l'école, quand on levait sa main, on se dit « mais pourquoi j'ai fait ça ?» Et je lui ai demandé, parce que j'avais lu ses textes, je ne sais pas d'ailleurs comment ça m'était arrivé aussi jeune, où il racontait des histoires avec des moines zen, et qui étaient toujours très très drôles. Je lui ai demandé « pourquoi vous ne racontez pas des histoires drôles de ce type-là » Ce qu'il a adoré, il a ri plus que tout le monde, il en a raconté pendant une demi-heure. On était les deux à s'écouter, les autres gens se sont un peu ennuyés. Il est venu vers moi à la fin de la conférence pour me dire « mais alors pourquoi m'avez posé cette question ?» J'ai dit « j'avais lu ces textes, j'avais trouvé ça formidable, mais ah, c'était très bien, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Donc j'avais 12-13 ans. Hein. Et bêtement, de nouveau, ne sachant pas quoi dire, j'ai dit « je vais devenir peintre ». Il a dit « ah, très bien ». Et 6 ans plus tard, quelque chose comme ça, je le vois, enfin il me voit dans une rue à Cologne, je pense que j'allais une pièce de Merce Cunningham dont il était pour lequel il faisait la musique. Il m'a reconnu de dos, mais entre cet âge-là et quand il m'a reconnu, j'étais, à mon avis, irreconnaissable.
Oui, j'imagine, oui.
Voilà. Donc il m'a reconnu et je n'avais pas ces cheveux qu'on me considère emblématiques alors que c'est juste
longue tresse.
Donc voilà. Et donc il me voit de loin et il me dit « Hey, you !» Et il m'a dit « C'est toi qui étais à Don Schengen qui m'a posé ces questions ?» Je lui ai dit « Oui, oui. » « Ah bon, et tu es peintre maintenant ?» C'est quand même incroyable, parce que quelqu'un qui voyait des milliers de personnes et il avait cette perspective. Bon, c'était aussi un chasseur de champignons, donc il ne pouvait pas se tromper.
On ne lâche pas par hasard. À 12 ans, je veux devenir peintre. Vous nous racontez ça comme si ça vous tombait dessus, cette phrase, mais elle germait quand même.
Il faut croire. Je ne sais pas exactement comment on analyse les germes. C'est comme les pousses de soya. On ne sait pas très bien si c'est sain ou pas sain d'en manger trop. Trop, en tout cas, ce n'est pas sain. Et de nouveau, je pense que je voulais faire ça même avant l'histoire de Cage. Je passais mon temps à dessiner. Ou je sais pas quoi. Donc, c'était naturel. Et peut-être ça venait effectivement du côté de ma mère qui avait côtoyé plein de gens dans son enfance qui étaient proches de... T'es proche de la famille de Peggy Guggenheim, des gens comme ça. Mais c'est des dérives. Et en fait, personne n'était vraiment très, très engagé là-dedans. Donc, c'est arrivé, on ne sait pas trop bien pourquoi. Mais aussi, pourquoi est-ce que tout à coup, j'ai décidé de ne pas faire mon service militaire, de passer 7 mois dans une prison à Genève et tout ça se décide, on ne sait pas très bien pourquoi.
7 mois de prison.
Oui, à l'époque, c'était comme ça que ça se réglait plus ou moins. C'était dans la prison de Saint-Antoine, une vieille prison moyenâgeuse, une vieille ville de Genève qui était un peu en ruine. Et c'est là probablement où j'ai appris le plus de choses. J'ai appris vraiment tout de ma vie en faisant 2 choses, à mon avis. En refusant mon service militaire, donc c'est vers 19 ans, de se trouver devant un tribunal, ça c'est quelque chose d'assez formatif. Et l'autre chose que je faisais avec mes amis, qui allaient former le groupe Écart plus tard, c'était de l'aviron. On faisait de l'aviron sérieusement, on faisait des régates, on ramait tous les jours, 3 heures par jour, pendant 10 ans on a fait ça. Donc c'est aussi très, très, très fort.
Je reviens à ce séjour au trou.
Oui.
Comment vous avez vécu cette expérience-là, vous qui aviez grandi dans le luxe complet?
Oui, déjà ça, il faut relativiser parce que
relativiser avec vous.
Oui, c'est vrai aussi. Non, on vivait dans un environnement de luxe, mais sans luxe, parce qu'en fait, ce qui permettait aux gens d'offrir ce cadre, c'était précisément parce qu'ils avaient une forme d'économie de vie. Et dans le fond, j'ai vécu de manière... dans un cadre luxueux, de manière relativement simple. Et je l'ai encore prononcé, parce que quand j'ai eu à décider ce que je faisais de ma propre vie, j'ai eu cette tendance un peu hippie de pas utiliser les produits matériels de la vie, mais simplement la vie pour la vie elle-même. Et de toute façon, ce que les gens ne savent pas non plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes ces choses-là s'arrêtent. C'est-à-dire l'hôtel, il est sorti de la famille, c'était en fait une forme de faillite, ce genre de choses-là. Donc j'ai vécu très très jeune grâce à mon travail, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que 90% des artistes que je connais n'arrivent pas à vivre de leur travail. Donc c'est déjà un privilège extraordinaire. Et la prison, c'est une chose intéressante parce qu'on vous enferme dans un milieu qui n'est pas celui qu'on a choisi. C'est un peu différent quand on y va dans le fond de son propre gré, parce que c'est un choix. Mais en même temps, ça vous apprend comment la société, quand elle est mise sous capsule, fonctionne, et elle est incroyablement cruel. En plus de ça, une prison est une, est une école de brigandage. Celui qui va aller dans prison et va sortir, il va s'y retrouver très très vite, il n'a presque pas le choix. Donc on est un témoin en première ligne de cela, et après on verra que tous les travers que l'on rencontre dans une prison ou dans un milieu extrême de ce genre-là, on va le retrouver dans la vie en général. C'est comme pour l'aviron, quand on est dans une équipe de quatre où on doit devenir l'autre en permanence, eh bien, on se rend compte qu'on est un être collectif. Et donc on est toujours part de l'ensemble. On est aussi responsable de notre part dans cet ensemble-là, et donc on peut, en théorie, tirer la chose du bon côté.
Vous faites toujours de l'aviron ?
Non, ça malheureusement pas. D'abord, je ne pourrai plus après que ce que je viens d'avoir comme souci de santé. Ceci dit, c'est à demi-vrai parce que quand j'étais à l'hôpital, on m'a mis dans une machine à ramer pour la rééducation, etc. Et évidemment, parce que ma mémoire du coup d'aviron était encore très, très présente, j'avais des résultats qui étaient absolument invraisemblables. Les gens se disaient, mais c'est incroyable, il est à moitié mort et il va mieux que tout le monde, en fait. Donc, en fait, il y a des choses qui s'inscrivent pour toujours et c'est assez, assez fascinant.
Vous faites allusion à cette période où vous avez été hospitalisé entre 2009 et 2010 pour une, je crois, maladie du cerveau.
Oui, une tumeur bénigne au cerveau. Oui, mais, et surtout à cause des conséquences post-opératoires, c'est-à-dire j'ai une méningite, une septicémie, enfin j'ai tout eu. J'étais mort pendant un certain temps.
Entre la vie et la mort.
Oui. Et on me donnait en fait aucune chance de survivre au début, puis après on me donnait aucune chance de survivre en bon état. J'avais une trachéotomie, donc on pensait que j'allais jamais arriver à parler normalement, je devais parler qu'un micro. Et toutes ces choses-là, et ça s'est tout guéri tout seul en fait.
Certains dans votre situation reviennent en parlant d'expérience de la mort, c'est votre cas ?
Oui, vous savez, c'est difficile. C'est comme l'histoire que je raconte de mes aventures enfant avec ces illuminations pour devenir artiste. Il y a la partie qu'on a vécue et la partie qu'on nous a racontée. Et c'est la même chose, l'histoire du tunnel où au bout on voit la lumière. Etc. C'est un peu une fiction, mais ce n'est pas complètement faux. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand je me suis rendu compte que j'étais presque mort, et que j'allais vivre, je me disais, mais c'est tellement injuste pour les autres. Parce que les autres, ils ont rien, et ils vont devoir s'occuper de quelqu'un, légumes ou pas légumes, ça va être terrible. Et je me disais, mais dans le fond, je n'ai qu'à mourir. Et je me rappelle très bien d'avoir eu ça, cette réflexion-là une ou deux fois. Je fermais les yeux en me disant, maintenant je meurs. Parce que dans le fond, j'étais au-delà de la douleur, c'était simplement un changement d'état. Alors je ferme les yeux, puis je rouvre les yeux, puis je dis tiens, c'est la même chose de l'autre côté. Et puis en fait, encore aujourd'hui, je me demande très bien si je ne suis pas mort, que c'est tout simplement pas la même chose de l'autre côté.
Vous vous sentez immatériel ?
On a toujours une part de nous qui est immatérielle. La partie matérielle, elle est très jouissive et très amusante, mais elle est aussi assez lourde. Quand on se retourne dans son lit, on se rend compte que le poids du corps est parfois embarrassant. Par exemple, pour reprendre, c'est un peu bête que je parle tout le temps de moi, mais quand on passe tout ce temps dans un hôpital, on se rend compte que, d'une certaine manière, on se débarrasse du corps. C'est-à-dire que les infirmières, dont on tombe forcément amoureux, et tout le corps médical a pris possession de votre corps et s'en occupe. Et vous n'êtes plus qu'un esprit. Vous devenez, en fait, immatériel. Et quelque part, j'ai encore aujourd'hui, en quelque sorte, la nostalgie de cela.
La nostalgie d'être débarrassé du corps ?
Oui, d'être devenu quelque chose d'immatériel, et d'être devenu un esprit. Ça me fait peur. Hein. Je dis, quand j'ai ça, tout de suite, je me reprends. Je me dis, non, faut pas s'attarder là-dessus. C'est aussi la complaisance, quelque part. Mais c'est aussi une expérience fascinante.
Est-ce que ces expériences, ces accès à d'autres, comment dirais-je, réalités, a modifié votre rapport à la création ?
Je pense que chaque minute de notre vie modifie notre rapport à la création. Et vous savez, j'ai énormément d'amis qui sont plutôt dans les stupéfiants pour avoir d'autres niveaux de conscience. Moi, ça m'a jamais attiré. Mais dans le fond, cette expérience-là était très voisine de cela, d'être tout à coup plus que quelque chose de quasiment immatériel. D'autant plus qu'en plus de ça, au début, j'avais des cauchemars, tout ça, et donc je pensais que j'étais sous influence, et on m'a expliqué que non, parce qu'à partir du moment donné que j'ai plus de douleur, on m'a plus donné du tout de médicaments, parce que l'accès à ce qui se passe dans le cerveau devient très difficile s'il y a des médicaments. Donc finalement, c'est le corps lui-même qui produisait ces effets.
Les cauchemars. Hein.
Les cauchemars, ou ce que c'est. Enfin, aujourd'hui, c'est difficile de dire. Mais c'est à peu près les mêmes effets qu'un stimulus chimique, parce qu'on le produit soi-même, en quelque sorte. Et c'est totalement fascinant, parce qu'on se rend compte que c'est utile, en plus de ça.
C'est fascinant de vous écouter, John Arleder. On parlait de l'enfermement, que ce soit en prison ou dans un hôpital. La liberté absolue pour vous, c'est quoi? C'est où?
C'est difficile à dire, parce que même la liberté tout court, c'est difficile à définir. Je pense que la liberté, elle est en nous et elle existe complètement. Ce qui est difficile, c'est de l'assumer, en fait. La liberté reste une notion extrêmement abstraite, sauf si on la met sur le plan de ce qui serait une contrainte ou pas. La réelle liberté, c'est celle où on donne accès à tout le monde, à tous les moyens qui sont disponibles et au partage, en fait. Ça, c'est une réelle liberté pour moi. Et je pense que, de nouveau, en tant qu'artiste, on a la chance de pouvoir avoir un rapport à cela assez facilement, alors que dans la plupart des activités que nous avons dans nos sociétés, il y a un filtre qui fait qu'on n'a même pas le temps de visualiser ces avenues, en quelque sorte.
John Arleder, en peinture comme en performance, vous dites utiliser une partition et les produits seraient vos instruments.
Oui, je pense qu'on fait ça toujours consciemment et inconsciemment. Hein. D'une certaine manière, on préétablit ce que l'on va faire, ce que l'on va dire en l'écrivant ou en ne l'écrivant pas. Donc, en quelque sorte, nous sommes les exécutants d'une narration préétablie. On n'en est pas forcément conscient, ce n'est pas d'ailleurs nécessaire de l'être.
Donc l'histoire, vous ne savez pas forcément laquelle ce sera, la narration?
Non, pas forcément, non. Et je ne suis même pas sûr que je m'y intéresse, en quelque sorte. De nouveau, je pense que nous sommes des passeurs, d'une certaine manière. Et le passeur qui s'occupe de plus de sa barge que d'autre chose, de ce qui est sur sa barge, est un passeur efficace.
Chacun raconte son histoire, c'est ça?
Oui, parce que quand on essaye de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est qu'on en a pris possession à travers son propre filtre. Donc on ne parle jamais que de nous-mêmes. La preuve en est, c'est que qu'est-ce que j'ai fait pendant toute cette heure, c'est parler que de moi-même, ce qui est honte à moi.
Non. Non, c'est le principe même de l'émission d'ailleurs, John Arleder.
Donc c'est de votre faute.
Oui, c'est de ma faute. J'en suis vraiment responsable et heureuse de cette responsabilité. Vous travaillez en musique ou vous préférez le silence?
Je ne sais pas si je travaille vraiment et je ne sais pas quand je travaille. Donc maintenant, j'écoute moins de la musique vu mon état, mais j'ai toujours beaucoup écouté de musique et je n'ai pas su si c'est à ce moment-là que je travaillais le plus ou pas, puisque comme je vous le dis, c'est dans le fond, avant l'exécution des œuvres, qu'on travaille le plus. Pendant l'exécution, il m'est arrivé de travailler avec la musique beaucoup et parfois pas du tout. Et je ne sais pas s'il y a une différence. C'est une des choses que j'ai bien appris de John Cage, c'est qu'il n'y a que de la musique. C'est-à-dire que le silence est une autre forme de musique. Et c'est d'ailleurs le titre de son recueil de ses premières conférences. Et c'est aussi une pièce que j'ai réalisée plusieurs fois, qui est le 4 minutes 33 pour piano de Cage, qui est un morceau en trois mouvements, mais tous silencieux, et que j'ai joué il n'y a pas si longtemps à Renan, à l'Écale, avec Christian Marclay, un artiste que j'ai connu tout jeune quand il était encore à Genève, en fait.
Suite à votre maladie, vous parvenez aujourd'hui à créer encore?
Écoutez, je ne sais pas si j'ai parvenu avant, en plus de ça.
Si.
Oui, ça étonnamment peut changer de choses. D'ailleurs, en plus de ça, quand j'y repense, je me l'explique assez mal, parce que quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais encore alimenté avec un tube pendant plus d'une année, et j'ai tout de suite fait des expulsions, j'ai tout de suite fait des voyages. C'était super compliqué, vous imaginez, d'avoir une potence, de chercher la nourriture liquide, tout ça. Enfin, c'est rien à côté de ce que vivent d'autres gens, hein. Mais c'est quand même une autre... Comment dire, on n'a pas la même autonomie. Et on apprend très vite, enfin on apprend tout à fait naturellement, c'est une conséquence directe, qu'on supporte pas. Il y a des gens qui ne le supportent pas. D'ailleurs, quand vous passez 13 mois dans un hôpital, vous voyez des gens sauter par la fenêtre parce qu'ils en ont assez. Et ça se comprend très très bien aussi. Ceci dit, ça se passe aussi dans la vie courante en général. Seulement, on ne le voit pas toujours. Quoi.
Donc, vous ne vous êtes absolument jamais arrêté ?
Probablement pas. C'est-à-dire que la question de savoir, c'est quand j'étais entre la vie et la mort, est-ce que je m'étais arrêté ou pas ? Et on n'en sait rien, en fait. Ce qui est un peu amusant avec ce qu'on a tendance à faire, puisque nous sommes tous des babilleurs finalement, c'est qu'on a une narration pour quelque chose dont on n'a pas le texte en quelque sorte. Donc on raconte beaucoup d'histoires par rapport à quelque chose dont on ne sait strictement rien. Et on passe son temps à le faire. Et on l'apprend très vite ça, parce qu'on commence à babiller. Vous voyez, les bébés, ils parlent sans pouvoir utiliser des mots. Et puis après, quand on est à l'école, moi je n'ai pas cesser de me faire punir parce que pour babillage, en fait. Et là, vous devriez me punir parce que je babille encore.
Je vous fais cesser tout de suite de babiller, John Armleder. C'est la fin de cette émission. Grand merci de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes l'un des artistes à l'affiche de la 7e édition de Motier Art en plein air, qui se vit donc dans le Val de Travers jusqu'au 20 septembre. Bel été, belle soirée.
Merci à vous.